le monde aujourd'hui.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 27 septembre 2022. Avec vous Eric Manilakidza, voici d'abord le sommaire. En Guinée, l'ex-président Dadis Camara envoyé en prison la veille de son procès sur le massacre du 28 septembre. Au Burkina, au moins une dizaine de morts dans une attaque djihadiste dans le nord du pays. Kidal, ville stratégique du nord malien, sous couvre-feu nocturne imposé par d'anciens rebelles. Vote d'annexion en Ukraine, la commission électorale russe annonce le oui en tête. Kiev prévient que ces votes ne changeront rien aux actions des forces ukrainiennes. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'ex-président guinéen Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés ont été envoyés en prison aujourd'hui avant d'être jugés à partir de demain, mercredi, pour le massacre commis le 28 septembre 2009, ont indiqué leurs avocats. Le procureur a fait embarquer nos 6 clients à la prison centrale où ils seront retenus jusqu'à la fin de la procédure, c'est-à-dire du procès. À la durée indéterminée, a déclaré devant le tribunal un de ses avocats, Maître Salifou Béavogui. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. Une nouvelle attaque attribuée aux djihadistes a fait une dizaine de morts dans le nord du Burkina Faso. C'est un convoi de 150 véhicules qui a été la cible des assaillants, selon l'armée. Le point avec Abdourahman Diaye.
Un convoi de ravitaillement des populations escorté par une unité du 14e régiment interarmes à destination de Djibo a été la cible d'une attaque terroriste lundi près de la localité de Gaskindé située dans la province du Soum, région du Sahel, indique un communiqué de l'armée. Une vidéo partagée en ligne montrait des gens se précipitant pour récupérer des marchandises d'au moins une dizaine de camions en feu et de la fumée s'échappant des véhicules endommagés. Une autre vidéo montrait des foules accueillant en liesse des véhicules du convoi qui avaient survécu à l'attaque et qui a pu arriver à Djibo. Une source sécuritaire fait aussi état de nombreux blessés graves. L'agence Reuters précise n'avoir pas pu vérifier l'authenticité de ces vidéos. Le décompte se poursuit toujours et des renforts ont été déployés dans la zone pour apporter une assistance aux victimes et sécuriser la zone, a indiqué la même source. Samedi, 2 soldats et 2 supplétifs civils de l'armée ont été tués dans la province de la Tapoa, une région de l'est du Burkina, frontalière du Niger et du Bénin, selon l'armée.
La ville de Kidal, dans le nord du Mali, est sous couvre-feu imposé par la coordination des mouvements de l'Azawad, une coalition de groupes armés à dominante Touareg. Les détails avec Nanit Talani.
Le couvre-feu est entré en vigueur pour la première fois la nuit dernière et va de 21h00 à 5h00 du matin. Il fait partie d'un dispositif visant à répondre aux besoins sécuritaires du moment selon un document officiel de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. L'opération prévoit des missions de sécurisation des routes, des fouilles systématiques et des perquisitions, souligne la CEMA, qui reste vague sur les raisons de la mise en place de ce couvre-feu, se contentant d'évoquer l'arrivée de personnes déplacées et la menace de la circulation d'armes. Jusqu'ici, la région de Kidal est relativement préservée des violences. Mais, plus au sud, les secteurs de Gao, Talatai et Minaka sont le théâtre depuis des mois de combats avec des combattants du groupe État islamique au Grand Sahara et les civils sont pris au milieu de ces violences. Kidal est contrôlé par la CEMA, une ancienne rébellion à dominante Touareg qui avait combattu l'État malien avant de signer un accord de paix en 2015.
Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a prévenu que son pays ne se laisserait pas imposer une solution à la crise diplomatique avec le voisin ivoirien par une mission de chef d'État ouest-africain attendue en fin de semaine. Nous allons les écouter. Nous avons dit depuis le début que tout ce que le Mali veut, c'est chercher les voies et moyens pour trouver un terrain d'entente entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais si c'est pour imposer des décisions au Mali, cela ne passera pas, a déclaré M. Diop dans un entretien en Bambara avec VOA Afrique posté sur les réseaux sociaux des affaires étrangères. Le Niger a décidé la semaine dernière de suspendre le transit des produits pétroliers destinés au Mali voisin pour des raisons sécuritaires. Les produits destinés à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, sont toutefois exemptés de cette suspension, selon une note des douanes du Niger. Le nouveau président kényan William Ruto, élu le mois dernier au terme d'une élection serrée, a annoncé mardi la composition de son gouvernement, notamment au ministère des Finances. Un ancien gouverneur de la Banque centrale du Kenya, William Ruto, s'était engagé durant la campagne à instaurer la parité dans son gouvernement. Seules 7 femmes ont été nommées sur un total de 22 ministres. En visite en RDC, l'ancien président français François Hollande a plaidé mardi à Kinshasa pour la fin des ingérences et une force des Nations Unies plus efficace pour amener la paix dans l'est du pays. Monsieur Hollande va se rendre à Bukavu pour assister mercredi à l'inauguration d'un nouveau service de l'hôpital Panzi du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 pour son action en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Près de 6000 Congolais qui ont fui les violences dans leur pays et trouvé refuge en Zambie ont pu être reconduits en RDC dans le cadre d'un programme de rapatriement volontaire, selon le HCR. Ils ont exprimé leur joie de rentrer chez eux et sont impatients de retrouver leur famille, a précisé le HCR dans un communiqué. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma se dit disponible pour servir l'ANC, le Congrès national africain. Ce parti qui dirige le pays depuis 3 décennies doit décider en décembre s'il reconduit l'actuel président Cyril Ramaphosa à la prochaine présidentielle. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
En dépit des difficultés causées par ma situation juridique actuelle, j'ai eu des consultations avec des dirigeants de l'ANC, a écrit Jacob Zuma dans un communiqué. L'ancien président ajoute qu'il ne refusera pas un rappel si les responsables jugent nécessaire qu'il serve à nouveau son parti. Jacob Zuma, 80 ans, dit soutenir la candidature de son ex-femme Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne patronne de la Commission de l'Union africaine, pour détrôner l'actuel président Cyril Ramaphosa lors du congrès de l'ANC en décembre et briguer la tête du pays en 2024. Cette annonce met de l'huile sur les divisions au sein de l'ANC entre partisans de M. Ramaphosa, qui espère qu'il pourra briguer un second mandat de 5 ans, et ceux de Jacob Zuma, qui avait accédé à la présidence en 2009, avant d'être contraint de se retirer 9 ans plus tard pour céder sa place à son vice-président Cyril Ramaphosa. L'ANC a perdu du terrain et ses dirigeants sont souvent accusés de faillite et de corruption.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, les référendums dans 4 régions contrôlées par la Russie sont terminés ce mardi. Les autorités pro-russes de ces régions annoncent que le oui est en tête. L'Union européenne affirme que les référendums sont illégaux et menace de sanctionner toutes les personnes qui ont participé à leur organisation. John Lyndon.
Les autorités pro-russes de 4 régions ukrainiennes contrôlées par la Russie ont annoncé que le oui l'emporte selon des résultats préliminaires lors des référendums d'annexion par la Russie. Selon les agences russes, les autorités de chacune des 4 régions ont affirmé que le oui remporte entre 97 et 98% des suffrages après dépouillement de 20 à 27% des votes. L'ancien président et numéro 2 du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a assuré que Moscou défendra ses nouveaux territoires qu'elle entend incorporer à l'issue de ces scrutins, y compris avec des armes nucléaires. Pour sa part, Vladimir Poutine a assuré que ses votes visaient à sauver les populations locales, accusant Kiev d'orchestrer un prétendu génocide de russophones. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a balayé d'un tour de main la valeur de ses votes lors d'une conférence de presse à Kiev avec son homologue français, Catherine Colonna. Il y aura des conséquences pour toutes les personnes qui ont pris part à l'organisation de ces référendums illégaux, a déclaré le porte-parole de l'Union européenne, Peter Stano, à Bruxelles.
Washington a déjà mis en garde Moscou plusieurs fois. Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a prévenu dimanche des conséquences catastrophiques pour la Russie si le président Poutine met à exécution sa menace d'utiliser l'armée nucléaire contre l'Ukraine. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Tony Blinken a affirmé aujourd'hui que les États-Unis et leurs alliés ne reconnaîtront jamais l'annexion par la Russie de territoire en Ukraine. Il a réitéré que les États-Unis et leurs alliés prendraient en représailles de nouvelles et sévères sanctions contre la Russie.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce soir par Mohamedou Oumfa.
Le Burkina Faso a enregistré une baisse de 23,5% des arrivées globales de touristes en 2020 par rapport à l'année 2019, a annoncé mardi la ministre en charge du tourisme, Valérie Kabouré, qui impute cette situation à la double crise sécuritaire et sanitaire de la pandémie de COVID-19. Elle a néanmoins souligné que l'espoir renaissait avec la levée des mesures de restriction de déplacement et la mise en place des mesures de relance post-COVID. La Banque des États de l'Afrique centrale a une nouvelle fois revu à la hausse deux de ses principaux taux directeurs. Le taux d'intérêt des appels d'offres passe de 4 à 4,5% et le taux de facilité de prêt marginal passe de 5,75% à 6,25%. La Banque centrale entend ainsi combattre l'inflation en Afrique centrale qui pourrait culminer jusqu'à 5,2% en décembre 2022, largement au-dessus de la norme communautaire admise qui est de 3%. La quantité de cacao exportée par Madagascar en 2021 a atteint 14 783 tonnes, selon un communiqué publié lundi par le ministère malgache de l'industrialisation, du commerce et de la consommation. Des exportations qui ont rapporté 24,5 millions de dollars en 2021 à la grande île de l'océan Indien.
Sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo avec nous. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football avec la suite des matchs amicaux disputés par les sélections en Afrique.
Un but partout entre le Sénégal et l'Iran, 2-2 entre le Togo et la Guinée équatoriale. À suivre aussi Cameroun, Corée du Sud. Le Brésil fait face à la Tunisie, le Maroc joue le Paraguay ou encore Ghana, Nicaragua. La République démocratique du Congo fait face à la Sierra Leone, la Guinée, la Côte d'Ivoire. On aura également Algérie, Nigeria, Comores, Burkina Faso et Bénin, Madagascar.
En basketball, le Mali éliminé de la Coupe du Monde féminine.
5 matchs de groupe et 5 défaites. La dernière face au Canada ce mardi, 88-65 à Sydney. En Australie où se joue la compétition, les affiches des quarts de finale de ce mondial féminin de basketball sont connues. Gros match en vue entre les États-Unis et la Serbie. Porto Rico affronte le Canada, la Chine fait face à la France et la Belgique joue contre l'Australie. Les quarts de finale se jouent ce jeudi 29 septembre.
Justement, la FIBA ouvre une enquête après une bagarre entre joueuses maliennes.
Cette bagarre a éclaté lundi, juste après la quatrième défaite en 4 matchs du Mali, synonyme d'élimination en poule face à la Serbie. Deux joueuses, dont Salimata Kourouma, en sont venues aux mains dans la zone mixte de l'Olympic Park Sport Center, où se croisent médias et joueuses avant d'être séparées par des coéquipières. La Fédération internationale de basketball a annoncé avoir ouvert une enquête. La FIBA, dont le président Hamane Niang est malien, soutient qu'elle prendra toute mesure disciplinaire éventuelle une fois que l'enquête sera terminée. Hier, la meneuse malienne Touti Gandega a indiqué sur son compte Twitter que la sélection tenait à s'excuser auprès du peuple malien et du peuple africain.
Enfin, athlétisme, Brigide Kosgei, absente au marathon de Londres.
La détentrice du record du monde du marathon a annoncé qu'elle ne prendra pas le départ du marathon de Londres en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. J'ai considéré qu'il valait mieux que je me retire de l'édition de cette année pour me soigner et aborder 2023 plus forte que jamais, a expliqué Brigitte Kosgei, qui avait triomphé en 2020 et 2021 dans la capitale anglaise avant de finir quatrième l'an dernier. Le plateau féminin sera emmené par ses compatriotes Jocelyne Jepkosgei, la tenante du titre, et Judith Courir, vainqueur du marathon de Paris en avril. Chez les hommes, le tenant du titre, l'Éthiopien Cisaï Lema, et son compatriote Kenenisa Bekele, le deuxième homme le plus rapide de l'histoire sur la distance, seront parmi les favoris. Le Britannique Mo Farah devrait être au départ pour la première fois depuis 2019. Le recordman du monde masculin Eliud Kipchoge, qui vient de battre de 30 secondes son propre record à Berlin dimanche, ne sera pas non plus au départ à Londres.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza, place au dossier du jour. En Guinée, le procès tant attendu du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry s'ouvre enfin demain mercredi après les violences qui ont entraîné plus de 150 morts. L'ancien leader Moussa Dadis Camara et ses co-accusés ont été envoyés en prison en attendant le début du procès. Des centaines de victimes et où leurs familles réclament des procédures équitables et des réparations. Nanit Talani, adjoint à Conakry en Guinée. Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes du massacre du 28 septembre, qui a perdu son fils pendant ces violences.
Le 28 septembre 2009, c'est les forces vives qui avaient invité les militants des partis politiques de venir dire non à la candidature de Moussa Dadis Camara, qui était le président d'alors de la junte. Et malheureusement, cela a très mal tourné. Il y a eu ce massacre, il y a eu des blessés, des morts, des personnes disparues, des femmes qui ont été violées. Donc, depuis ce temps, il y a eu mort et engagé pour lutter contre l'impunité, surtout réclamer la justice. C'est moi, c'est mon fils aîné qui a été tué au stade. 13 ans après, aujourd'hui, je me sens vraiment bien de voir qu'enfin le procès va commencer en Guinée.
Qu'est-ce que vous attendez de ce procès?
De ce procès, nous attendons vraiment la vérité. Nous attendons des réparations. Nous attendons une reconnaissance au niveau national. Nous attendons que les victimes soient protégées et accompagnées au niveau médical et psychologique. Enfin, nous voulons une garantie de non-répétition.
Ce procès qui s'ouvre est une très bonne chose, puisque beaucoup de gens l'attendaient impatiemment. Mais les ONG se disent aussi préoccupées par les procédures. Pensez-vous qu'elles seront assez justes et équitables pour que justice soit enfin rendue? Et il y a aussi ce problème de l'absence au procès de certains responsables impliqués dans le massacre de 2009.
Certainement que le ministère va régler ce problème d'ici demain. En tout cas, nous espérons qu'ils vont faire ce qui est important, ce qui va rendre le procès crédible. Nous attendons toujours cela, qu'ils fassent tout pour que ce procès soit crédible et juste.
Et si vos revendications ne sont pas satisfaites, qu'est-ce que vous comptez faire?
À ce moment, on verra ce qu'il faut faire, mais nous voulons que nos attentes soient prises en compte depuis 13 ans. Depuis 13 ans, nous sommes sur ce terrain, tout en réclamant la justice. Et si on nous berne, ce serait vraiment regrettable pour tous les camps, pour les victimes et pour même l'État. Mais je pense qu'on ne sera pas, on ne va pas y arriver là.
Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes du 28 septembre. Au Bénin, nouvelle attaque terroriste au nord du pays. Le bilan est de 2 morts dans les rangs de la police. Il serait tombé dans une embuscade alors qu'il faisait une patrouille de routine sur les sites récemment ciblés par des attaques. Que pensent les populations béninoises de cette attaque? Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adande.
Depuis l'an dernier, le Bénin s'est trouvé exposé à des attaques avec l'utilisation d'engins explosifs improvisés contre les forces de sécurité des écoles et des autorités locales ou coutumières. Devant la fréquence de ces attaques, le Bénin s'est tourné vers des pays comme la France pour donner les moyens permettant aux forces de sécurité d'assurer la protection de la population. Patrice Talon l'a évoqué lors du récent passage à Cotonou du président français Emmanuel Macron.
Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France France nous appuierait davantage
dans notre effort de lutte contre le terrorisme, parce que aujourd'hui c'est l'un des principaux défis. Et malheureusement, permettez que je le répète, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause auprès des autorités militaires françaises pour une certaine donnée de la coopération, notamment la fourniture d'équipements et de matériel militaire.
Le président français s'est dit conscient de la situation et du besoin pour les autorités béninoises de faire face à la menace terroriste et il a promis que l'aide au Bénin viendra incessamment.
Nous avons acté pour deux choses. La première, c'est qu'à court terme, nous allons livrer ces matériels et en quelque sorte, on va, si je puis m'exprimer ainsi, le faire comme si on achetait pour nous et donc on va regarder en fonction des besoins et ça va se faire d'armée à armée pour répondre aux besoins de très court terme. Et nous avons acté d'une coopération technique pour aider le Bénin à structurer l'équivalent d'une délégation générale à l'armement qui permet d'acheter justement, voire de penser ou de coproduire des programmes d'armement en lien avec les industriels et en structurant ce dialogue.
Mais lors de la table ronde de Cotonou, les participants pensent qu'en réponse à la violence de ces attaques, une autre réponse est possible. Pour Daniel Bieler, représentant le département fédéral suisse des affaires étrangères, la préoccupation principale aujourd'hui est de savoir si la réponse répressive confiée aux forces de défense et de sécurité peut faire face à la violence extrême. Une proximité positive de l'État, un esprit de dialogue et de gouvernance partagée pour assurer la sécurité et faciliter la coproduction de cette sécurité par la population, a-t-il fait savoir.
De plus en plus nombreux sont ceux qui considèrent que la solution aux interrogations posées par les extrémistes violents ne viendra pas seulement de là. C'est ici que ce dialogue que nous conduisons avec des représentants des FDS de la région sur leur rôle dans la prévention de la violence prend tout son sens. Ces travaux ont déjà permis de faire émerger une prise de conscience importante.
Prenant le cas du Bénin, Fiacrali Dinou, un des participants à cette table ronde, a souligné que la lutte contre le terrorisme doit commencer en interne. Pour lui, les tensions internes sont un terrain favorable aux attaques tous azimuts.
Ça s'est passé à un moment où le Bénin était en conflit interne des partis politiques. Nous sommes plus menacés par nos contradictions internes, car si le mur n'est pas lézardé, le reste ne peut pas rentrer. Et c'est pourquoi il faut l'étouffer dès maintenant et par nous-mêmes, pas par les voyages à l'étranger pour chercher des gens qui vont venir nous faire la paix ici.
Des pourparlers seraient en cours entre Kigali et Cotonou pour un appui dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Même si pour l'heure, rien n'a été annoncé officiellement par les autorités béninoises, les deux pays devraient aboutir à une entente à la fin du mois de septembre. De Cotonou, Jeanette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Le bois et les produits dérivés venant des pays de l'Afrique centrale doivent suivre un circuit légal avant de se retrouver sur les marchés internationaux et de la Chine. C'est l'objectif que veut atteindre la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, à travers le projet dénommé Tropicore Timber Trade Facility, encore appelé projet triangulaire trilatéral Afrique centrale Chine-Allemagne. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
La Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, se donne un délai de 4 ans pour soumettre à 6 de ses 11 membres un document qui va encadrer les chaînes d'approvisionnement en bois dans le bassin du Congo. Martial Hervé Maïdou, secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale.
Les pays concernés, c'est le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Gabon, qui doivent développer un dialogue avec la Chine en matière de commerce du bois, mais également en matière d'échange de technologies pour améliorer la transformation du bois et le commerce du bois.
Le commerce du bois devrait être légal entre la Chine et ses 6 pays membres de la COMIFAC. Il devrait y avoir de la transparence qui ne suit toujours pas. Corinne Afriqueux, ambassadeur d'Allemagne au Cameroun.
Pour le moment, on n'a pas encore un système de certification qui serait reconnu internationalement. C'est une question cruciale. Le but est d'avoir aussi les négociations avec la Chine qu'on peut faciliter et garantir que tout le bois arrivant là-bas serait une exploitation légale certifiée.
Le futur projet trilatéral Afrique centrale, Chine, Allemagne poursuit également d'autres objectifs, selon la diplomate allemande.
Pas seulement pour protéger la deuxième poumon du monde, mais aussi pour donner une perspective durable à la population, que aussi les prochaines générations peuvent vivre de ces ressources naturelles.
Une enveloppe de plus de 3 milliards de francs CFA, soit plus de 5 millions de dollars, est mise à contribution. Martial Hervé Maïdou, secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale.
Le projet est en cours de rédaction aujourd'hui et après cette phase, on va soumettre ce projet à l'examen au niveau de 6 pays qui sont concernés ou qui donnent leur accord pour valider la note de projet avant que le projet ne puisse rentrer en mise en œuvre.
Depuis juillet 2020, le nouveau code forestier de la Chine interdit d'acheter, de transporter et de transformer du bois illégal. Selon l'Association technique internationale des bois tropicaux, la Chine importe 60 à 80% des bois tropicaux. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'enlisement du conflit ukrainien. Alors que les forces ukrainiennes sont engagées dans une contre-offensive, le président russe Vladimir Poutine mobilise les réservistes et menace de recourir à tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident. Pendant ce temps, un référendum d'annexion est organisé dans les régions ukrainiennes contrôlées par les troupes russes. Comment analyser la situation militaire sur le terrain et les menaces du président Poutine? Quelle solution au conflit? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Elles font le linge, la vaisselle, le ménage, elles font la cuisine et garder les enfants. Bref, elles font presque tout le travail dans les maisons et subissent souvent des traitements dégradants. Au Sénégal, par exemple, les domestiques communément appelés « bonnes » vivent dans la galère, de notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Abus sexuels, marginalisation, duperie, voilà les mots auxquels sont confrontées les femmes de ménage au Sénégal. Des mots que Ndjemé affronte depuis près d'une décennie. Trouvée sous l'arbre qui leur sert de quartier général au niveau de Liberté 6 à Dakar, cette dame, originaire de l'intérieur du pays, dit avoir été victime de traitements inhumains.
Même s'il s'agit d'un chien, quand tu sors de chez toi, tu dois au moins lui laisser à manger. Mais soit ils ne le font pas, soit ils demandent de sortir du frigo un repas qui s'y trouve depuis plus d'une semaine pour le manger. Ça, c'est irrespectueux et c'est comme cela qu'on nous traite. Moi, je suis dans le secteur depuis 10 ans et je ne vois pas d'amélioration.
Des actes qui l'ont poussé à revoir à la hausse ses exigences salariales, mais aussi à trier ses futurs employeurs.
Personnellement, j'ai décidé de ne pas travailler pour les célibataires. Je ne travaille que pour les couples mariés. Je travaille 15 jours et l'on me paye mon argent. Au début, j'ai taxé à mes employeurs une somme allant de 50 000 francs à 60 000 francs. Mais maintenant, j'ai augmenté les tarifs. Je prends au minimum 70 000 francs.
Entre la femme de ménage et son employeur se trouvent les agents de placement. Et très souvent, ils sont pointés du doigt par les deux bords quand les soucis éclatent. L'agent de placement Galaï botte en touche ces accusations.
La plupart du temps, les patrons disent la vérité quand il y a un contentieux. Mais il faut reconnaître aussi que certains créent des problèmes juste pour renvoyer leur bonne. Les filles ne sont pas toujours exemptes de tout reproche. Quand tu vois une fille se dépigmenter, faire des piercings et se comporter de manière extravagante et autre, tu sais qu'elle ne veut pas être une simple bonne. Mais elle a des projets pas clairs. Mais il faut reconnaître que ce n'est qu'une minorité à vrai dire.
Même si les abus sont nombreux, le secteur est bel et bien réglementé, comme nous l'explique Elhaj Ahmad Diam, juriste consultant.
Le secteur des domestiques ou agents de maison est réglementé. C'est juste sous un arrêté ministériel. Il faut comprendre que c'est une législation que le Sénégal a ratifiée de par la Convention des Nations Unies à son article 189. Cet même arrêté aussi a prévu les conditions salariales qui varie entre 40 000 et 50 000 francs. En plus de ce salaire, l'agent de domicile aussi doit bénéficier de la part de son employeur une prise en charge médicale et des autres avantages en faveur du travail, parce que c'est un travail au sens du terme, au sens du code du travail, ils sont considérés comme des travailleurs.
Entre pression, surcharge de travail, renvoi sans motif et abus sexuels, les femmes de ménage espèrent qu'un coup de balai sera fait sur la législation pour mieux défendre leur statut. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Joselle Morissin et Michel Joseph pour la réalisation de cette édition et la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction. Eric Manilakidze a été avec vous au micro. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24 sur votre site voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.